Bonjour les gardiennes, bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Pharaon. On en a déjà parlé, on l'a déjà vu hein, quand on a vu un petit peu Pharaon et la famille royale. Mais j'avais envie d'aborder aussi un autre aspect de Pharaon, qui est celui justement de notre propre Pharaon intérieur, puisque Pharaon est un archétype. Et justement, je pensais un petit peu ces derniers temps, en ces temps d'élection, où voilà, où beaucoup de personnes ont été chahutées et où on se projette déjà sur les futures élections présidentielles. J'avais envie de vous apporter justement cette vision égyptienne qui dit qu'il n'y a qu'un seul pharaon. Il n'y a qu'un seul pharaon, c'est une phrase qui est vraiment importante pour moi. Puisque pour les Égyptiens, en fait, Pharaon, c'est une entité qui s'incarne, c'est un archétype qui va habiter l'être qui va accéder au trône. Et c'est pour ça que c'est en cela d'ailleurs hein, qu'il n'y a qu'un seul Pharaon, c'est que c'est une entité qui s'incarne et qui va justement venir gouverner à travers un être qui a été choisi pour diverses qualités. Mais cet archétype, en fait, est le même et va s'incarner, en fait, hein, de dynastie en dynastie, et qui va progressivement se perdre, bien entendu, à partir du moment où on va arriver vers la 18e dynastie, malheureusement. Mais qui, avant ça, en fait, c'est toujours cette même entité, un petit peu comme pour le Dalai Lama. C'est un peu la même vision des choses, c'est-à-dire que le Dalai Lama s'incarne de Dalai Lama en Dalai Lama. C'est une entité spirituelle qui va s'incarner et on va justement partir à la recherche du Dalai Lama à travers de jeunes enfants en leur montrant certains objets. Ils vont devoir reconnaître ces objets qui ont appartenu au Dalai Lama précédent. Et en fait, les prêtres, moines et oracles du Dalai Lama qui vont partir à sa recherche vont à un moment donné reconnaître quel est le Dalai Lama, où est-ce qu'il s'est incarné, à travers quel être est-ce qu'il s'est incarné. C'est la même vision en Égypte antique et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai une vision de la politique hein, qui est assez particulière et qui, bien entendu, est très empreinte de la conception égyptienne, puisque pour moi, il n'y a qu'un seul pharaon et il ne devrait y avoir qu'un seul président. Seulement, on n'est plus sur une théocratie et on n'est plus sur des entités spirituelles qui s'incarnent, mais simplement sur des égos d'hommes. Ce qui, pour moi, est compliqué de légitimer l'ego d'un homme qu'on va mettre au pouvoir. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, ce sont des choix personnels. Les égyptologues ont longtemps en fait pensé que certains pharaons allaient marteler les cartouches des précédents pour y mettre leur nom. Alors, il faut savoir que le règne d'un pharaon va être lié à une époque durant laquelle il va devoir diriger. Donc, on va donner un règne bien spécifique à ce pharaon qui va permettre, par exemple, Séti Ier, avec le nom de Seth hein, dedans, qui va permettre en fait de donner au pharaon les qualités nécessaires pour qu'il puisse affronter, entre guillemets, la période durant laquelle il va devoir gouverner. Il n'y avait pas de volonté de prendre la place d'un autre, d'usurper une identité, d'usurper des statues ou bien des temples en fait, parce que pour eux, il n'y a qu'un seul pharaon. Et donc la vision qui est posée là-dessus par les archéologues et les égyptologues, c'est vraiment une vision purement occidentale, puisque pour les Égyptiens, comme je vous le disais, ils pensaient pas du tout comme ça. Étant donné que pour eux, il n'y avait qu'un seul pharaon, et ben ils allaient apposer à la place du nom du précédent le nom du nouveau pharaon qui s'incarnait. Et d'ailleurs, c'était pas commandité par le pharaon lui-même, il avait bien d'autres choses à penser, c'était commandité par les prêtres hein, qui étaient en charge justement de trouver le nouveau pharaon, etc. Et donc, ils allaient mettre le nom du nouveau pharaon pour justement, en fait, donner au temple la puissance de ce pharaon, la puissance de ce règne, qui allait être important, fondamental en fait pour toute l'époque durant laquelle il allait devoir régner. Alors je vous parle de ça parce que on sait que la déesse Hermès, elle était gardienne du seuil hein, à l'entrée des temples et des palais royaux. Et puis parce que Pharaon allait être initié, était initié en fait à la puissance Serhem, qui est donc cette force de coagulation. Le sceptre Serhem qu'on a vu dans le PDF était un sceptre qui était confié également à Pharaon et qui allait permettre de coaguler à la fois les forces physiques intérieures, mais à la fois les forces qui régissent l'univers. Donc, c'était vraiment important que Pharaon ait cette initiation intérieure. Bien entendu, Pharaon était initié aussi à l'Uréus, cette énergie hein, qui montait jusqu'au niveau du troisième œil pour ouvrir sa conscience. Ça, c'est bien entendu évident. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, on est tous et toutes porteurs et porteuses de cet archétype de Pharaon. C'est celui qui va gouverner en nous-mêmes. C'est également celui que les Hébreux, en fait, vont nommer celui qui est l'esclavagiste du peuple hébreu. Alors, je fais une petite parenthèse, je vais parler un petit peu justement de cette sortie du désert du peuple hébreu qu'on va retrouver dans la Bible. Il n'y a aucune preuve historique archéologique que cette période ait existé. On ne sait pas d'ailleurs sous quel pharaon. Et la plupart des historiens sont plutôt dans un consensus que c'est une métaphore. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que cette sortie d'Égypte, après avoir été sous l'esclavage de Pharaon, petite parenthèse encore une fois, il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu de l'esclavage en Égypte. Hein, on n'a jamais retrouvé de preuve qu'il y en ait eu. Et d'ailleurs, les scientifiques sont plutôt d'accord avec l'inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que les ouvriers qui étaient sur les chantiers des temples, des pyramides, étaient des ouvriers qui étaient qualifiés, qui avaient droit à une momification et qui étaient rémunérés. Donc on est bien loin du fantasme, voilà, des mecs qui se faisaient fouetter. Quand on voit la précision et la finesse du travail qui a été fait dans les temples et sur les pyramides, on se doute que les mecs, ils avaient quand même un petit peu d'expérience. Bref, ce que je voulais dire, c'était que Pharaon, il peut, à l'intérieur de nous-mêmes, en tant qu'archétype, et ça, je l'ai mis dans le tarot de Kemet, il peut effectivement être celui qui nous emprisonne et celui duquel on va être esclave. Et pour que Pharaon puisse devenir notre maître intérieur, notre grand initiateur, il va falloir avoir cette ouverture de conscience qui peut être donnée justement par la pratique de l'Uréus. Voilà, ça me semblait, je sais pas, j'avais vraiment envie de vous faire ce petit vocal sur Pharaon, parce que moi, c'est vrai que c'est en plus un sujet qui me fascine et qui me passionne. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté aussi peut-être une forme de réflexion sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'ai envie de dire pour finir cet audio, le roi est mort, vive le roi. À bientôt!